Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jacques Toubon n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Dans son rapport annuel d'activité publié aujourd'hui, le défenseur des droits parle d'un recul des libertés fondamentales, de répression en hausse, d'un repli des services publics qui sapent la cohésion sociale. Entre les dispositions de l'état d'urgence entrées dans la loi dite anti-casseurs actuellement en discussion au Parlement, la loi sur l'immigration qui a confirmé le délit de solidarité, les motifs d'inquiétude sont nombreux pour les défenseurs des droits et des libertés en France. Les droits des personnes françaises et étrangères sont-ils en régression dans le pays? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Sarah Massoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juge des libertés et de la détention à Bobigny et membre du syndicat de la magistrature qui est classé à gauche. Et Cécile Coudriou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente d'Amnesty International France qui est une organisation non gouvernementale de défense des droits humains. Depuis ce matin, Jacques Toubon a fait le tour des médias pour présenter son rapport. Cela lui est d'ailleurs reproché par le ministre de l'Intérieur. Le défenseur des droits va-t-il trop loin dans ce rapport annuel publié aujourd'hui? Très clairement et très prosaïquement, est-ce que Jacques Toubon exagère, Cécile Coudriou?
Moi, je pense que Jacques Toubon est dans son rôle de défenseur des droits. C'est sûr qu'il y a parfois confusion puisqu'on pense à son passé, mais aujourd'hui, il a bien tourné la page, il est tout à fait dans son droit de faire état de dérives ou de violations des droits humains, qui, même si nous sommes encore dans un pays qui est un état de droit, eh bien, il y a effectivement de quoi être préoccupé. Donc nous saluons la sortie de ce rapport et nous avons bien sûr beaucoup de préoccupations en commun et aussi beaucoup de recommandations en commun.
Sarah Massoud, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport qui est sorti ce matin? Il est assez juste dans son analyse?
Je pense que il est tout à fait juste dans son analyse. Ça fait déjà des années que le défenseur des droits est sur cette ligne. Et je pense que, pour rebondir sur l'un de vos termes, il n'exagère pas du tout. Bien au contraire, je pense que ça fait déjà longtemps qu'on le dit, qu'il y a une régression des droits en France, et une régression d'ailleurs qui touche plusieurs champs du droit, à la fois le champ civil, le champ administratif, mais également le champ pénal et le champ aussi social.
L'ambiance n'est pas propice aux libertés, c'est ce que dit Jacques Toubon. C'est depuis quand? Ça date de quand, Cécile Coudriou, de l'état d'urgence après les attentats de 2015?
Exactement, c'est à partir des analyses que nous partageons avec le défenseur des droits, c'est que en fait il faut vraiment faire le lien avec la lutte antiterrorisme, avec cette menace terroriste qui est bien réelle, nous ne le nions pas, mais il est clair que ça a vraiment conduit à des dérives de divers ordres. Effectivement, ça peut aussi bien toucher les migrants et les demandeurs d'asile que les citoyens lambda qui veulent manifester aujourd'hui. Donc ce sont des sortes de modèles, des paradigmes qui ont changé, et notamment celui qui nous préoccupe beaucoup, et c'est sûrement pas notre invité qui va me contredire, c'est le fait que aujourd'hui l'équilibre des pouvoirs est réellement remis en cause, puisque nous partons plus vers l'administratif que vers le judiciaire. Et ça, c'est vraiment directement lié à la volonté de prévenir, hein, la prévention de violations graves qui sont aussi, bien sûr, causées par le terrorisme. Mais au nom de cela, malheureusement, au nom d'objectifs sécuritaires, on est en train de s'éloigner aussi d'un équilibre des pouvoirs et d'une garantie de justice dans de bonnes conditions.
Sarah Massoud, avec cet état d'urgence et les dispositions qui sont entrées il y a quelques mois dans le droit commun, si je peux dire ça comme ça, vous me corrigerez si j'utilise pas les bons termes juridiques, est-ce que c'est comparable à une sorte de Patriot Act à la française? On est dans ce genre d'état d'esprit?
On l'était très clairement au lendemain des attentats de 2015, lorsque il y a eu les deux lois successives extrêmement autoritaires et sécuritaires qui ont fait suite à la mise en place de l'état d'urgence, où pendant 2 ans, il y a eu des dispositions et des pouvoirs qui ont été donnés à l'autorité administrative qui ont été exorbitants du droit commun. Alors on était en état d'urgence, donc on était dans un contexte exorbitant du droit commun, mais comme vous l'avez précisé, ces règles exceptionnelles, ces règles d'exception ont été absorbées par le droit commun. Donc on peut, oui, aujourd'hui parler de contexte, en tous les cas sur le champ pénal, de contexte extrêmement sécuritaire, extrêmement autoritaire, mais j'ai envie de vous dire que c'était déjà assez présent en tous les cas en droit pénal avant 2015. Il y a déjà des infractions, il y avait déjà des infractions qui étaient de plus en plus liberticides, on va dire ça comme ça. J'utilise ce mot qui peut faire peur, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser des mots forts pour que les gens comprennent aussi. Mais bien avant 2015, il y avait déjà une extension du champ pénal et une extension de ce domaine du champ pénal qui était détourné à des fins de maintien de l'ordre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus d'acuité que le Sénat est en seconde lecture de la loi dite anticasseur aujourd'hui.
On va en reparler, mais j'aimerais prolonger sur cette affaire de maintien de l'ordre. Le mouvement des Gilets jaunes a donné lieu, notamment au début du mois de décembre, à de nombreuses arrestations, plus de 1000 rien que pour le week-end du 8 décembre. Cécile Coudriou, vous aviez déjà vu ça ?
Non, c'est tout à fait inédit. En fait, nous avions déjà fait des observations pendant la loi travail qui avait commencé à nous inquiéter. Mais ensuite, là je pense qu'on a vraiment franchi un palier hein, depuis ce mouvement des Gilets jaunes. Nous avons recueilli un nombre très impressionnant de témoignages qui vont dans le même sens, qui a bel et bien une réponse disproportionnée des forces de police. Donc là encore, hein, faut être très mesuré. On ne va pas nier le fait que le niveau de violence du côté, notamment ce qu'on appelle les casseurs, hein, avec toutes les précautions qu'il faut prendre quand on emploie ce terme, a été aussi inédit. Donc le contexte est particulier. Cela dit, nous pensons aujourd'hui qu'on est arrivé à un niveau tel que le droit lui-même de manifester pacifiquement est remis en cause et qu'au nom d'objectifs sécuritaires et de répression de personnes qui commettent réellement des violences, y compris des violences graves à l'encontre des policiers, eh bien d'autres citoyens et citoyennes se trouvent en fait pris dans la nasse, sans faire de mauvais jeu de mots, se pris aussi dans des gaz lacrymogènes systématiques, même lorsque les manifestations ne l'imposent pas. Et donc il y a bel et bien une espèce de fuite en avant et c'est à l'image finalement de la fuite en avant sur le plan législatif. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure depuis 2015, il faut parler aussi d'un véritable empilement de lois, alors que la question de la nécessité, c'est-à-dire qu'est-ce que ces lois nouvelles sont nécessaires, est-ce qu'il n'y avait pas déjà des dispositions avant qui permettaient de répondre à ces situations, eh bien pour nous la réponse est non. Dans ce sens-là, il n'y a pas de nécessité, ce sont beaucoup de lois de circonstances et d'affichage, et chaque fois elles grignotent un peu plus l'état de droit.
Sarah Massoud, on va parler de cette loi dite anti-casseurs qui est actuellement au Parlement. J'aimerais juste que vous nous livriez votre témoignage de juge. Ces nombreuses arrestations, notamment au mois de décembre, eh bien, elles ont atterri dans votre bureau. Hein, vous êtes juge des libertés. Est-ce que vous avez vu des gens dont vous n'aviez jamais vu le profil auparavant passer dans votre bureau ?
Alors moi, personnellement, non, parce que je suis juge des libertés de la détention à Bobigny, oui. Donc j'ai peu à connaître des procédures liées aux manifestations des Gilets jaunes. Mais en revanche, je connais un certain nombre de collègues qui nous en ont parlé. Et donc, oui, il y a eu un effort exceptionnel, un nombre de déferments exceptionnels, un nombre de gardes à vue exceptionnels, un nombre d'interpellations exceptionnelles. Bien plus que par le passé, notamment lors des manifestations COP21, lors des manifestations sur la loi El Khomri. Donc oui, en termes de chiffres, je trouve ça... je vais encore employer un mot un peu fort, hein. Je trouve ça assez effarant et très inquiétant en qualité de juge des libertés et en qualité de surtout de garant de la liberté individuelle.
En termes de profil, vos collègues de Paris, notamment, ont vu passer des gens qu'ils n'avaient jamais vus, grosso modo, c'est ça l'idée ?
Tout à fait, il y a un certain nombre de collègues qui nous ont rapporté des témoignages comme quoi il y avait des personnes qui sont passées en comparution immédiate avec des casiers judiciaires béants. Qui ne connaissaient absolument pas le milieu judiciaire, qui n'avaient jamais été placés en garde à vue.
Il y a eu aussi beaucoup de gardes à vue qui n'ont donné lieu à aucune poursuite. Les gens ont été relâchés parce qu'on ne pouvait absolument rien leur reprocher, en fait. Donc on voit qu'il y a une espèce de systématisme qui est tout à fait inquiétant, ça aussi, puisque tout cela conduit, en fait, à dissuader les personnes, y compris les personnes tout à fait pacifiques, il faut insister là-dessus, de manifester. Que ce soit cette loi anti-casseurs aujourd'hui, mais déjà quelques dispositions précédemment, nous nous rendons bien compte que des personnes aujourd'hui ont tout simplement peur d'aller manifester, puisqu'elles peuvent faire l'objet non seulement de violences extrêmement graves, hein, comme avec le LBD 40, mais aussi avec les grenades de désencerclement.
Le lanceur de balles
voilà,
de défense.
Donc nous avons quand même pu constater des amputations, des éborgnements, enfin des blessures extrêmement graves. Alors, encore une fois, les policiers aussi ont dû faire face à des violences hors du commun. Mais malgré tout, ce qui est en danger aujourd'hui, c'est le droit de manifester pour tous et pour toutes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas tolérer dans un état de droit.
Sarah Massoud, c'est ça qui vous inquiète dans cette loi anti-casseurs qui est actuellement en discussion, sous prétexte de lutter contre la violence, on dissuade les gens de d'exercer leur droit à manifester ?
Alors, on n'est pas que sur de la dissuasion. Je pense qu'on est sur des entraves à la liberté d'aller et venir et des entraves à la liberté d'expression. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, il y a quelques jours, a saisi lui-même le constitutionnel.
Il a un doute.
Voilà. Je pense que on est quand même à la mesure des entraves qui sont en jeu.
Oui. Le problème, c'est l'interdiction administrative de manifester avant même une éventuelle décision de justice.
C'est ce dont je parlais tout à l'heure, ce changement de paradigme est très préoccupant. C'est vraiment celui-là, c'est que finalement, il n'y a plus de réelle possibilité de se défendre. Hein, et puis, ce n'est pas un juge judiciaire avec une contradiction possible. Donc, on est de plus en plus du côté de l'arbitraire, finalement, bon, d'une suspicion avec des notes de renseignement. Donc, ce ne sont pas non plus des choses qui sont venues de nulle part. Mais malgré tout, c'est quand même pas avec la même rigueur qu'on pourrait avoir dans un système judiciaire avec un juge et une possibilité de répondre et aussi d'être prévenu à temps. Puisqu'avec cette loi anti-casseurs, des personnes peuvent arriver sur le lieu de la manifestation et c'est à ce moment-là seulement qu'elles sont prévenues qu'elles n'ont pas le droit de manifester. Donc ces interdictions arbitraires administratives sont quand même pas du tout sur la ligne du droit international.
Sarah Massoud, il faut une validation judiciaire pour interdire à quelqu'un de manifester, donc délivrée par un juge en amont, ou on peut se contenter, comme le prétend le gouvernement, d'un avis en aval et en référé. Est-ce que ça vous paraît suffisant comme garantie ?
Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il a été décidé là cet après-midi au Sénat, mais en tous les cas, cette disposition me paraît tout à fait anticonstitutionnelle, à savoir cette interdiction individuelle, administrative, alors même qu'il n'y a eu aucun acte positif, c'est-à-dire quelqu'un que l'on va empêcher de se mouvoir parce qu'il aurait l'intention de manifester.
On dirait un film de science-fiction tel que vous le...
Ce n'est plus de la science-fiction depuis longtemps. C'était déjà le cas dans les lois antiterroristes avec les assignations à résidence administrative, avec les fameuses perquisitions administratives qui n'ont donné quasiment rien d'ailleurs. Sur 4500 perquisitions administratives à l'époque, ça n'a donné lieu qu'à une trentaine, je crois, dans mes souvenirs de procédures judiciaires. Mais pour en revenir sur le volet judiciaire, pour répondre à votre question, il y a des dispositions dans cette loi qui sont extrêmement inquiétantes, au-delà même de cette interdiction administrative. Par exemple, sur les contrôles d'identité, il va y avoir une extension de la possibilité de contrôler l'identité de quelqu'un, quel que soit son comportement. Pareil, il va y avoir la création d'un nouveau délit. Aujourd'hui, c'était une contravention de cinquième classe, à savoir le fait de dissimuler son visage en tout ou partie. Il va y avoir également un délit politique. Il existe un délit politique dans le code pénal qui est la participation à un attroupement. Un attroupement, c'est-à-dire la réunion de plusieurs personnes sur la voie publique.
C'est une manifestation non déclarée, une manifestation interdite.
Une manifestation déclarée. Jusqu'à présent, lorsque l'on était coupable de cette infraction, enfin en tous les cas qu'on était soupçonné d'avoir commis cette infraction, on ne pouvait pas passer en comparution immédiate, on ne pouvait pas être déféré devant le tribunal. Et ben aujourd'hui, il y a une disposition qui va le permettre. Et qui ne le permettait pas. Alors, il y a cette autre infraction qui est utilisée énormément par le parquet de Paris, qui est celle de la participation à un attroupement en vue de commettre sciemment des dégradations ou des violences volontaires. Donc, vous voyez qu'on est déjà en amont. Donc, vous me parlez de science-fiction. Là, on est... Quand je vous parlais de l'extension du champ pénal, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va réprimer de plus en plus, depuis ces 10 dernières années, l'intention. On ne réprime pas des actes matériels. On réprime des intentions, on réprime des comportements.
Cécile Coudriou.
Pour la dissimulation de visage, effectivement, on parle également de dissuasion de manifester, puisqu'il y a une forme de paradoxe. Et au moment même où on emploie de manière massive et sans doute excessive les gaz lacrymogènes, avec des doses d'ailleurs bien plus fortes qu'avant, notamment avec ces bombes aussi qui ont un petit peu de TNT dedans, les fameuses Glee F4, donc l'usage massif des gaz lacrymogènes conduit bien sûr les manifestants à se protéger le visage pour éviter l'effet trop dangereux. Et en fait, maintenant, si on interdit ça, par définition, on finit par dissuader les gens d'aller manifester aussi, même ceux qu'ils faisaient pacifiquement.
Puis j'ai envie de dire je parle presque plus en qualité de juge là. Je ne comprends pas cette politique. Je ne comprends pas cette politique autoritaire. Je ne comprends pas les propos de cet exécutif. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que les autres pays européens ont revu leur gestion de maintien de l'ordre, leur politique de gestion de maintien de l'ordre. Et la France n'a absolument pas participé à ça. Alors qu'on était normalement sur des stratégies de désescalade, sur des stratégies de communication, sur des stratégies de connaissance des populations qui vont aller manifester, eh bien la France est allée dans un tout autre sens, c'est-à-dire l'utilisation toujours de plus d'armes, l'utilisation toujours d'autres unités qui sont pas dédiées, qui sont pas formées pour le maintien de l'ordre. Bref, je ne comprends pas stratégiquement parce que ça ne fonctionne pas.
Je pose la question très très innocemment. Est-ce que ça peut s'appliquer à des manifestations qui ne sont pas déclarées? Ça veut dire que s'ils ne sont pas déclarés, il n'y a pas de dialogue en amont de la part des manifestants, non. Cécile Coudriou?
Déjà, en droit international, il n'y a pas d'obligation de prévenir avant une manifestation. Ça relève de la liberté d'expression. Donc c'est déjà une particularité dans le droit français.
Qui est bien installée depuis de nombreuses années quand même.
Tout à fait. Mais là, effectivement, ce qui nous préoccupe bien plus encore, c'est cette dérive vers des interdictions administratives qui sont bien sûr motivées par le fait que le mouvement lui-même ayant pris de l'ampleur, il faudrait essayer de l'arrêter. Donc c'est vraiment au nom de cela que nous avons réagi depuis déjà un certain temps à Amnesty International, c'est que ce droit de manifester pacifiquement est un droit vraiment garanti par le droit international, et la France a signé et ratifié ce pacte qui garantit également ce droit. Donc il y a une véritable obligation internationale, et c'est là que le rapport de Jacques Toubon est bien sûr mal pris par le gouvernement, mais pour nous c'est essentiel, on le considère comme un allié, ça fait écho à nos propres préoccupations et recommandations, c'est que l'objectif sécuritaire finit par obscurcir l'horizon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de proportion, il n'y a plus d'équilibre, en fait, pour répondre à une menace, qu'elle soit sécuritaire par rapport aux manifestations et aux violences, ou qu'elle soit terroriste. Dans les deux cas, le problème est là, c'est qu'il y a une perte de nécessité et de proportionnalité dans la façon dont la loi s'empile année après année.
Sarah Massoud, c'est une question que... Parce que j'ai eu une autre vie de journaliste sportif avant. C'est appliqué pour les interdictions de stade. D'interdire aux gens préventivement de se rendre sur un événement, ça fonctionne assez bien. Quelle est la différence? C'est un droit fondamental de manifester, c'est ça la différence principale?
Tout à fait. Alors, je connais assez peu la spécificité de ce délit des interdictions de stade, mais c'était déjà une atteinte à la liberté d'aller et venir. Et aujourd'hui, on va bien au-delà de ceci. Ce que je voudrais également rappeler, c'est que je pense que ça crée également, par ailleurs, parce qu'on est tous d'accord pour dire que ce qu'il faut, c'est éviter les dégradations, éviter que les gens soient en insécurité, éviter qu'il y ait des violences et que ça concerne quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà l'arsenal pénal. L'a déjà, et il est même de plus en plus coercitif. On a tout à fait les outils pour pouvoir localiser, essayer d'interpeller, saisir des juges, ouvrir des enquêtes préliminaires, des informations judiciaires pour pouvoir sanctionner, voire juger ces personnes-là. Donc tout ceci n'est pas utile pour pouvoir rassurer les... Enfin, c'est pour ça que je vous le disais, je ne vois pas stratégiquement ni politiquement. Je ne suis pas dans la tête de M. Castaner, je ne suis pas non plus dans la tête de M. Macron, mais même en me mettant à leur place... Je ne comprends pas. C'est-à-dire que il va y avoir encore plus une défiance entre la population et les policiers. Il va y avoir encore plus une défiance pour pouvoir aller s'exprimer. On va plus aller oser sortir pour aller manifester.
Ce qui est important, c'est que les citoyens aient un sentiment de justice, en effet. Donc, bien évidemment, il ne doit pas y avoir d'impunité vis-à-vis de personnes qui ont commis des dégradations et qui ont commis des violences volontaires, parfois très graves, contre les forces de l'ordre. Mais de la même façon, il ne doit pas avoir d'impunité lorsque des forces de l'ordre ont commis aussi des violations des droits humains. Et là, actuellement, eh bien, effectivement, ça n'est pas le cas, puisque les plaintes ont été classées sans suite. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que pour qu'il y ait une justice, pour qu'il y ait une confiance dans les institutions, eh bien, il faut que les droits humains soient respectés. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, nous pensons que le rapport de Jacques Toubon est un rappel qui va complètement faire écho à tout ce que nous avons pu dire depuis plusieurs mois déjà.
Merci, Cécile Coudriou. Merci à vous également, Sarah Massoud, d'avoir participé à cette émission qui est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage et Arnold Assoa à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.